Bonjour, je m'appelle André Ponce et je vous propose de me suivre à la découverte des grandes fontaines de Toulouse. La ville est là, tumultueuse, bruyante, agitée. Mes pas me mènent à la croisée des rues, là où convergent les pas des plus pressés, où se recoupent les itinéraires des piétons, des cycles, des skates, des affairés et des promeneurs. Arrêtons-nous. Vidons nos esprits jusqu'à percevoir le chuintement des filets d'eau, le sifflet des jets, le clapotis de l'eau dans le bassin. Nous nous trouvons place Wilson, au centre-ville, devant la fontaine Goudouli. Cette fontaine est un hommage à la poésie en langue occitane et plus particulièrement au poète occitan Pere Goudouli, Pierre Goudouli ou Godoli selon les orthographes, né à Toulouse en 1580 et disparu en 1649. Le poète, qui s'est illustré par ses vers en langue occitane, est sculpté ici par Alexandre Falguière, lui-même né à Toulouse au milieu du XIXe siècle et disparu au tout début du XXe. La mise en scène de la fontaine, quant à elle, a été réalisée par l'architecte Casimir Pujol en 1907. Ce que nous percevons au premier regard, c'est qu'il s'agit d'un groupe sculpté représentant un homme, le poète certainement, si l'on en juge par les vêtements du XVIIe siècle. Il est assis sur des rochers tenant un livre à la main. À ses pieds, on peut voir une jeune femme nue, représentation allégorique de sa muse. Oui, la muse de toute sa vie, la Garonne. Elle verse ses eaux dans le grand bassin. L'ensemble est sculpté dans un marbre blanc soutenu par un amas rocheux. Il s'agit là d'une œuvre imposante puisqu'aussi bien nous sommes face à un bassin de plus de 12 mètres de diamètre et une sculpture d'environ 3 à 4 mètres de largeur. Lorsque nous approchons de ce bassin, nous pouvons remarquer que la mise en scène dans l'espace se fait de façon frontale, comme dans un théâtre à l'italienne. Un immense bassin circulaire à la surface duquel plusieurs plans viennent s'étager dans la profondeur selon les lois de la perspective traditionnelle. Au premier plan, nous voyons une série de petits jets qui délimitent l'espace scénique tout en établissant une liaison entre le plan d'eau et la sculpture. Vient ensuite l'ensemble sculpté lui-même. Et enfin, derrière cet ensemble, nous voyons un rideau de jets verticaux haut, composant le rideau arrière de cette scène. L'ensemble paraît d'autant plus important que cette mise en scène s'établit dans l'espace circulaire de la place Wilson. Ceci est important, elle est elle-même ceinturée d'arbres formant un cirque, dont le centre est marqué par cet élément, comportant lui-même encore la représentation du groupe sculptural. Dans cette mise en scène, nous pouvons remarquer que les liaisons, les correspondances d'un élément à l'autre sont nombreuses. Ceci afin de capturer le regard du spectateur et le guider jusqu'au point focal le plus important, le visage du poète et plus particulièrement son regard. Regard qui est sans doute la clé qui permet de déchiffrer cette œuvre. Approchons-nous et regardons comment cela fonctionne. Si l'on prend comme point de départ notre première vision lorsque nous avançons, notre regard se heurte à un premier plan frontal formé par les rochers. À partir de cet instant, par le placement judicieux de quelques éléments en zigzag, le sculpteur nous aide à gravir du regard les différents éléments qui composent l'œuvre. Notre attention est naturellement attirée en premier lieu par la cruche d'où sort l'eau de la source, puis par le jeu des courbes que forme le bras de la muse qui enlace cette cruche source, nous découvrons la jeune femme nue et admirons le corps souple et alangui de la muse. Somnolente, les yeux clos, elle est allongée à même le sol, et ses longs cheveux se perdent sur la berge, allant jusqu'à se confondre avec les flots qui coulent devant son corps. Une prouesse de courbes et de contre-courbes sculpturales tout en sensualité. Si ce corps, la cruche et les flots forment un grouillement de formes près des eaux, notre regard est aussitôt capté par le grand vide qui se dégage sur le côté opposé. nous y accédons par un zigzag ascendant du regard. En contrepoint, nous découvrons, seul, isolé, le chapeau que le poète a posé au sol. Il s'agit là d'un signe de chaleur du sud, bien entendu, mais surtout d'un élément qui signifie que nous avons affaire à un moment de détente, dans un endroit isolé, paisible, une nature où il n'est plus nécessaire d'être en représentation. Aussi, le poète a-t-il quitté son chapeau et entrouvert sa veste. Il s'agit là d'un élément important, car il renforce, il nous signifie que nous entrons dans l'intimité de l'instant que nous propose l'œuvre. Puis, par un nouveau circuit en zigzag légèrement ascendant, habilement construit, nous revenons vers la droite, attirés par le livre que le poète tient dans sa main. Son index est placé de telle sorte qu'il marque la page en cours de lecture. Voici un nouveau signe nous indiquant que nous nous trouvons dans un instant, un entre-deux. La lecture vient juste de s'interrompre et elle n'a pas encore été reprise. Le temps est suspendu dans un instantané. Par le bras du poète, nous remontons le long du corps et nous parvenons enfin au visage dans une composition triangulaire dont la tête est le sommet. La base de la berge est l'horizontalité de la muse formant la base du triangle et son premier angle, le chapeau et les rochers en formant le second. L'œuvre est condensée dans ce point culminant, le visage, et plus particulièrement le regard, tourné vers un point invisible. Un regard vague, perdu dans le vide, dans le rêve ou dans l'inspiration. Et c'est très certainement cet invisible que nous ne voyons pas et que seul le poète peut voir, qui nous est proposé par la représentation matérielle de sa muse. Le sculpteur nous rend visible l'invisible, caché dans le livre de poésie que Goudouli tient à la main. La poésie qu'il écrit par l'intermédiaire de sa muse. Nous pouvons maintenant comprendre la totalité de la scène. Le poète est assis à l'ombre du feuillage, immobile, paisible. Il a retiré son chapeau. Sa pensée vagabonde au gré des roucoulements des pigeons de la place, des cantates de l'onde de la Garonne, des raies de soleil perçant la feuillée des arbres du parc Wilson. À ses pieds coule la source, sa source, la Garonne, muse inspirante, déesse de sa poésie. Elle est la maîtresse complice, coulant sans fin, offrant sa nudité la plus innocente, la plus sensible, alanguie sur la berge, femme et féminité dans sa plus belle nature. Et ainsi, le poète et sa déesse, la rivière, voguent de ligne en ligne, de page en page dans le recueil que le poète tient à la main. Nous n'en doutons plus. Au détour du feuillet du livre, quand ouvre le doigt du poète, tous deux vont se rencontrer dans le sillage des vers, s'enlacer et produire les rimes que le lecteur futur savourera, les yeux fixés à son tour dans l'imaginaire, en reprenant la mélodie des mots. Ainsi, grâce à cette œuvre sculpturale, nous voyons couler sans fin la source de la Garonne, couler la poésie occitane que Goudouli a su magnifier. Si d'aventure nous nous glissons dans les coulisses, je veux dire que si nous faisons le tour et allons découvrir ce qui se cache au dos de l'œuvre, alors nous pouvons déchiffrer dans le marbre, en bas à gauche, les mots qui animaient la verve du poète. « Nurigal de Toulouse, me play de Mantini, su langage bel. » Je m'appelle André Ponce, je suis promeneur, je déambule de place en fontaine.
Altitude 93.5.
Vous aimez déambuler? Alors retrouvez-moi en librairie dans l'ouvrage Les Grandes Fontaines de Toulouse, paru aux éditions Empreintes. Au revoir et à la semaine prochaine pour une nouvelle fontaine.